Chapitre 18. Vous voulez savoir comment échapper à la terreur abjecte? Comment lutter contre les sueurs froides nocturnes, la peur du monstre caché sous le lit? Comment dormir sur ses deux oreilles? Ou marcher dans les ruelles sombres d'un pas léger? Vous voulez savoir comment devenir moi? D'abord, il faut trouver le vide. C'est un refuge que tout le monde possède, tout au fond de soi. Un endroit que personne d'autre ne peut atteindre. Je sais par des experts en la matière que certains le découvrent par la méditation, des retraites zen ou la recherche acharnée de l'état de pleine conscience. Disons que je l'ai découvert dans d'autres circonstances. Mais tout le monde en a un. Cet endroit où l'on se tient en silence, qui vous permet d'être intouchable même dans une pièce noire de monde. Où l'on est simplement, totalement, absolument, épouvantablement seul. Quand on y est, personne ne peut nous faire de mal. Et quand plus personne ne peut nous faire de mal, on n'a plus besoin d'avoir peur. C'est l'absence de lumière qui me mine. Je n'arrête pas de croire que mes yeux vont s'habituer, que la nuit va relâcher son emprise. Mais non, l'abîme de ténèbres reste d'un noir absolu. De temps à autre, je lève mes mains liées devant moi pour faire un test. Je ne les vois toujours pas. Je vis dans un univers de sons et de sensations tactiles. Alors je fais bon usage des uns et des autres. Je ne comprends pas le but de la chaîne reliée aux menottes qui entravent mes poignets. Pour autant que je le sache, mon rayon d'action s'étend à toute la pièce. Donc ça ne limite pas vraiment mes déplacements. S'agit-il de m'empêcher de bondir par la porte lorsqu'elle s'ouvrira d'un seul coup? De courir vers la lumière? Comme je n'en sais rien, je m'oblige à chasser cette question de mon esprit. Le moment n'est pas encore venu de nous inquiéter des motivations, mais de nous en tenir au fait. J'explore la pièce. 9 pas de large, d'un mur à l'autre. 12 grandes enjambées pour la longueur. 3 éléments de mobilier. Un matelas posé à même le sol. Un seau en plastique classique, lance en moins. Et une caisse de la taille d'un cercueil. J'entends toujours respirer. Lentement, régulièrement. Inspiration, expiration. Ça devient le bruit de fond de mes explorations. Comme le bercement des vagues, le rythme de mon cœur. Je le déteste déjà. Des fenêtres. 3. Du bout des doigts, je peux en suivre les contours. 2 sur un mur. Toutes les deux de taille modeste. Des fenêtres à guillotine, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce modèle, classique en Nouvelle-Angleterre. La plus grande fenêtre se trouve sur le mur opposé, 2 fois plus large que haute, des dimensions qui me font davantage penser à un miroir. Quand je passe mes doigts dessus, je sens du verre froid. Au contraire, la surface des petites vitres d'en face présente un grain, des aspérités, comme si elles avaient été peintes ou occultées d'une quelconque façon. J'essaye de gratter le revêtement avec mes ongles, mais je n'arrive pas à l'entamer. Il ne s'agit donc pas d'une peinture intérieure. Peut-être d'un produit plus industriel, comme de la résine époxy ou de la laque. On en a mis une grosse couche sur ces fenêtres qui doivent donner sur l'extérieur. D'où l'absence de lumière. Quant à la grande surface vitrée d'en face, je pense qu'il s'agit d'une cloison intérieure. Du coup, la présence d'une baie de cette taille n'aurait pas de sens. À moins bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'une fenêtre, mais d'un miroir sans teint. C'est mon hypothèse. Je ne peux avoir aucune certitude, naturellement. Mais pourquoi imaginer un tel dispositif pour ces cobayes, sinon pour jouir du spectacle? Je suis certaine que ce n'est qu'une question de temps avant que les lumières ne s'allument. Elles seront aveuglantes. Elles me désorienteront. Et le sujet non identifié, demandé à Samuel, c'est comme ça que le FBI désigne ceux qu'il recherche, profitera du chaos pour vérifier comment se portent ses protégés. À moins qu'il ne soit en train d'observer en ce moment même. Peut-être avec du matériel militaire, des lunettes de vision nocturne, tout est possible. Il faut que vous compreniez. Toutes les idées démentes que vous n'osez même pas envisager sont précisément ce dont il rêve. Les méchants avec un grand M. Le déni ne vous aidera pas. le refoulement ne vous sauvera pas. Mieux vaut regarder la réalité en face, savoir qui est l'ennemi, accepter ses perversions. Ensuite, trouver le vide et marcher au combat. La respiration, toujours d'une inlassable régularité. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Comment peut-elle continuer à dormir? Comment peut-elle ne pas m'entendre fureter dans le noir, trébucher sur le matelas, me cogner le pied ici contre un mur, là contre la caisse? Impossible de penser à cette boîte cercueil. Impossible de songer aux différentes possibilités, à son contenu. Si je le faisais, je perdrais le vide. Parce que c'est toute seule que je suis forte. Toute seule que je comprends les situations. J'avais bien l'intention de rester pour toujours et à jamais seule. Alors cette caisse, ce Dark Vador à la petite semaine ne faisait pas partie de l'équation. C'est une addition tout à fait indésirable à mes projets. Est-ce qu'elle est droguée? Ce serait la seule explication. Comment comprendre sinon qu'elle reste aussi longtemps inconsciente? Bien sûr, je ne sais pas précisément depuis combien de temps ça dure. Je me suis endormie samedi en début d'après-midi. À mon réveil, au crépuscule, un intrus était présent dans mon appartement. Mais maintenant, quelle heure est-il? Je déteste cette obscurité qui me fait perdre tous mes repères. Je me reconcentre. J'explore une nouvelle fois la pièce à tâtons, en me servant aussi de mes oreilles, qui peuvent être plus utiles que vous ne l'imaginez. Au-dessus de la grande baie, la fenêtre d'observation, sur la gauche, je repère un objet fixé au mur. Petit, doux, recouvert de mousse. Un haut-parleur, je suppose. Mon ravisseur regarde, et le moment venu, il parlera. Pour me donner des ordres, m'abreuver de sarcasme, que sais-je. Mais tôt ou tard, il se fera connaître. Et dès lors, son objectif sera d'affirmer son pouvoir. Cette respiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Je devrais m'en servir, la faire entrer dans le vide pour qu'elle devienne partie intégrante de ce lieu coupé du monde. Comme lorsqu'on se concentre sur le vent dans les arbres ou le son d'une cloche. Je ne peux pas lutter contre elle. Je ne peux pas la changer. Je ne peux pas la supprimer. Donc il faut m'en servir. Ne faire qu'un avec elle. Je déteste cette respiration. Je retourne au-dessus de la caisse. J'en tâte les contours. Je remarque la grossièreté des arêtes. Un travail sans finesse. J'aimerais pouvoir dire que je reconnais la main de l'artisan, mais les cercueils en pin sont monnaie courante, et je n'ai jamais su si Jacob avait fabriqué le sien ou s'il l'avait acheté. Je ne lui ai jamais posé la question, et ce n'est pas maintenant que je peux le faire. Elle est en train de mourir. Agenouillée à côté de la caisse, j'ai au moins cette certitude. Parce que c'est ce qui arrive aux jeunes filles séquestrées dans un cercueil. Physiquement, mentalement, quelle différence. Cette jeune fille, tout ce qui faisait sa personnalité, est en train de se dissoudre, de s'infiltrer dans le bois du cercueil, dans le sol de la chambre noire. Petit à petit, elle perd sa substance. Bientôt, le grand méchant kidnappeur n'aura qu'à ouvrir ce couvercle et elle fera n'importe quoi. Elle dira tout ce qu'il voudra parce que ça n'aura plus d'importance. La personne qu'elle était aura disparu. Il ne restera plus qu'une coquille vide. Un robot qu'il pourra réinitialiser. Un automate prêt à donner le nom de son père adoré. Je déteste cette fille dans la caisse. Et je me surprends à me déchiqueter les ongles. Une habitude dont j'ai eu du mal à me défaire il y a 4 ans. Je serre les poings. Je sens mes ongles se planter dans mes paumes et je m'applique à retrouver le vide. Et l'autre qui continue à respirer. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Un cadenas, d'un modèle banal. C'est comme ça qu'est fermé le couvercle. Un instant, ce cadenas métallique entre les mains, je me retrouve dans un sous-sol crasseux, poisseux de nourriture et de sexe. Et c'est comme si je regardais ma propre caisse de l'extérieur. Cette sensation de déjà-vu me déstabilise. Je me sens personnellement visée par toute cette mise en scène, comme si le grand méchant kidnappeur était à mes trousses plutôt que le contraire. Chercher le vide, le vide, le vide, ne rien ressentir, tout analyser. Sa respiration, inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Stacy Summers? Serait-ce possible que je l'ai enfin retrouvée? D'un seul coup, le vide s'évanouit et je ne ressens plus que de la panique. Je la déteste, cette fille, Stacy Summers, ou Dieu sait qui, peu importe. Elle ne devrait pas être là. J'ai laissé cette saloperie de caisse en bois derrière moi. J'ai pactisé avec le diable. J'ai vendu mon âme. D'après Samuel, j'ai fait ce que font les victimes pour vivre un jour de plus. Alors comment cette fille ose-t-elle se retrouver enfermée dans une caisse? Comment ose-t-elle détruire tout ce que j'ai fait? Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. La respiration. Toujours la respiration. Et d'un seul coup, avant même que je sache ce que je vais faire, je forme un point avec mes deux mains liées et je les abats violemment sur le couvercle. Encore une fois, et encore, et encore. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi! Mais tu vas te réveiller, connasse! La respiration, régulière. Je rêve ou quoi? Qui pourrait continuer à dormir au milieu d'un tel vacarme? Elle est droguée, je ne vois que ça. Je frappe encore. C'est plus fort que moi. Je suis furieuse contre cette fille, contre moi, contre lui. Je ne sais plus. Contre la caisse, je crois. Je suis furieuse contre cette horreur. Il faut qu'elle disparaisse. C'est vital. Je finis par secouer tout le bazar. La structure est de mauvaise qualité, peu solide, et commence à jouer sous l'effet de mon acharnement. Et l'autre qui respire toujours. Inspiration, expiration. Je fais pleuvoir les coups sur la caisse. Les vibrations du bois sous mes poings me donnent une idée. En d'autres circonstances, j'aurais crocheté la serrure, mais comme j'ai été enlevée directement dans mon lit douillet, je n'ai pas sur moi mes outils habituels. Deux petites épingles à cheveux noirs en plastique qui n'ont l'air de rien, mais qui permettent en réalité d'ouvrir n'importe quelle serrure. Peut-être que je vais pouvoir m'en passer, cela dit. La caisse sursaute et tremble chaque fois que je la cogne. C'est vraiment de la camelote. Je frappe avec une détermination renouvelée. Je secoue la caisse de droite et de gauche et je sens le couvercle bouger, les joints céder. Pour finir, avec un cri horrifique, je bascule la caisse sur le flanc et je lui fais faire un tonneau complet. Quand elle s'arrête, tremblante sous mes doigts, je sens que le couvercle est entrouvert. La respiration. Inspiration. Expiration. Comment un tel prodige est-il même possible? J'empoigne le couvercle et je l'arrache un peu plus, jusqu'à ce qu'il pende de son cadenas. Tiens, prends ça, l'amateur. La respiration. Inspiration. Expiration. Je ne vois rien. Les ténèbres envahissent tout, gomment tout. Alors je tends les mains, toute prête à extirper l'occupante de son abîme pour la conduire vers son salut. Seulement, il n'y a rien. Pas de corps. Pas de chaleur, pas de masse solide. Je ne trouve que du vide, du vide, du vide. Et pourtant, je l'entends encore. La respiration, inspiration, expiration, plus régulière que jamais. Le rythme de mon cœur. Je fouille les quatre coins du cercueil, avec mes mains menottées et mes doigts qui volettent comme des ailes de papillon. Du vide, du vide, du vide. Mais finalement, au pied du cercueil, un petit magnétophone, scotché au socle, qui diffuse en boucle un bruit de respiration. Inspiration, expiration. Et aussitôt, j'ai la certitude que cette respiration est la mienne, enregistrée pendant mon sommeil, tout comme ce cercueil est le mien. Il n'y a pas de deuxième victime. Il n'y a que moi. Toujours moi. Je lève les yeux vers le miroir sans teint. Dans le noir, je ne le vois pas, mais je le sens devant moi. Et je sais que l'homme est là, qu'il observe, qui l'attend en profitant du spectacle. Alors je souris. Je lève les mains pour lui adresser un doigt d'honneur. Puis je me relève et je m'éloigne du cercueil fracassé pour retourner au matelas. Et même si mon cœur bat à tout rompre, même si mon pouls s'affole, même si je sais maintenant qu'il ne s'agit pas d'un banal enlèvement, que cet homme sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, que je maîtrise encore moins la situation que je ne le croyais, que je ne suis pas une victime comme une autre, mais peut-être la victime qu'il cherchait, je me force à m'allonger et à lui tourner le dos. Trouver le vide, y rester. Là où personne ne peut vous faire de mal. Et si personne ne peut vous faire de mal, vous n'avez plus à avoir peur. Si je pouvais remonter le cours du temps, si je pouvais faire une seule chose, j'irais dans la ferme de ma mère. Je m'assiérais en face d'elle. Je mangerais ses muffins. J'accepterais son thé infusé au soleil. Et je la laisserais m'aimer. Sauf qu'après tout le temps que j'ai passé dans un vide stérile, je ne sais plus ce que c'est que d'éprouver des sentiments.